voudrais tout d'abord saluer les frères et sœurs qui sont sur Internet. Que Dieu les bénisse, parce que tous les dimanches, nous retransmettons les prédications. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est vraiment une joie de vous avoir au milieu de nous avec les frères et sœurs qui sont ici à l'église Paris Métropole. Et je sais que vous êtes nombreux à visionner nos vidéos, nos prédications. Nous avons nos commentaires. On vous entend, on vous écoute, on prie pour vous. On a vraiment une pensée pour vous parce que nous croyons que l'église de Christ, ce n'est pas seulement dans ces bâtiments, mais c'est aussi en dehors. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse librement et nous avons une pensée pour vous, pour chacun d'entre vous en cette matinée. La question que je voudrais vous poser, et je vais vous en poser deux ou trois pour introduire mes moments, ma prédication, qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est intéressant de pouvoir répondre à cette question parce que quand on regarde un petit peu aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, il y aurait de quoi se poser quelques questions. Peut-on se dire chrétien sans être passé réellement par la repentance ? Est-ce qu'on peut se dire chrétien en étant, je dirais, dans une tradition religieuse ? C'est intéressant de savoir ça. Est-ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un d'apparence ? Est-ce que c'est une étiquette ? Est-ce que c'est une mode ? Alors, la question que je la pose, je vous la pose à vous et puis sur ceux qui sont derrière les écrans, mais qu'est-ce qu'un chrétien réellement ? J'ai intitulé mon message « Chrétien biblique ou chrétien culturel ?» Parce que je pense que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a certaines questions qui me laissent comme cela pantois. Le terme chrétien, quand on l'a utilisé pour la première fois, c'était dans le Nouveau Testament, dans les Actes au chapitre 11, au verset 26, et puis après on l'a revu à trois reprises dans Actes 26, et puis dans 1 Pierre chapitre 4. Et les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche, dans Actes 11. Et ils ont été appelés chrétiens parce qu'on se moquait d'eux, on se moquait de leur langage, on se moquait de leur activité, de leur discours, de leur comportement. C'est-à-dire quand on les voyait, on disait, ah, lui c'est un chrétien, c'était un petit Jésus quelque part, dans son comportement, dans sa façon d'être. Et c'est vrai qu'un chrétien à l'époque, il sortait un petit peu du lot, il sortait de l'ordinaire, il y avait quelque chose à part sur lui. Et littéralement, le mot chrétien est dérivé du grec Christo, c'est-à-dire qui veut dire oint. C'est-à-dire qu'un chrétien, il est oint de la présence de Dieu. Ouais, de la présence de Jésus-Christ. À l'époque, un chrétien n'était pas un pharisien, non, loin de là. Les pharisiens, c'était la tradition de l'époque, les religieux de l'époque. Ce n'étaient pas non plus les zélotes qui étaient les extrémistes. Ce n'étaient pas non plus les sadducéens. On reconnaissait le chrétien par sa doctrine, la doctrine de Jésus, son langage. Je disais tout à l'heure, son comportement. À l'exemple de Félix, le procureur de Judée, qui était curieux parce qu'ils avaient arrêté Paul et de temps en temps ils le faisaient venir au palais en disant voilà parle-nous de ton Jésus, de qui tu es. Et l'apôtre Paul quand il prêchait, il prêchait sur la justice de Dieu, il prêchait sur la venue du Seigneur, il prêchait sur la repentance. À un tel point c'est qu'à un moment donné Félix s'est mis, mais attends, à force de me parler comme ça tu vas me persuader de devenir chrétien. Et il a tellement été secoué par ce message qui n'était pas un message habituel, qui n'était pas un message pharisien, religieux, de la tradition. C'était un message du céleste. Et là, ils entendaient un message de l'apôtre Paul qui percutait les cœurs. À un tel point que Félix a été tellement secoué qu'il n'a plus voulu l'inviter au palais, de peur de se convertir. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien ? Au cours des siècles, le terme chrétien a été galvaudé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, il a perdu de toute de sa puissance, de sa stature. Aujourd'hui, un chrétien peut être protestant, peut être orthodoxe, catholique, voire même croyant, parce que certains se disent croyants, une certaine croyance. Moi, je suis croyant, mais sans étiquette. Et quand vous parlez avec des personnes comme ça, on dit, bon, écoute, ben, raconte-moi qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie, raconte-moi ton expérience. Ah bon, il y a une expérience. Et on s'aperçoit que finalement, il y a des gens qui sont chrétiens dans le sens du mot, mais pas dans le sens de l'expérience. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce terme chrétien a été galvaudé. Alors moi, je me pose la question pour moi-même, mais qu'on puisse la poser pour chacun d'entre nous qui revendiquons finalement ce terme chrétien. Et il est important peut-être de se remettre en question par rapport à ça. Parce que certains ont l'apparence de la piété, déjà à l'époque, on en parlait puisque les Écritures nous le soulignent, certains ont l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Il y avait l'apparence, il y avait le côté chrétien, mais quelque part c'était vide, c'était creux, c'était une coquille vide, déjà à l'époque. Alors je me pose la question pour nous aujourd'hui, dans ce monde, dans cette société, qui se revendiquent pour certains d'être chrétiens au nom de la pluralité des religions, nos gouvernements ont refusé d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution européenne. On l'a refusé. On a refusé de déclarer que finalement l'Europe était marquée par des racines chrétiennes et poussée en tête par le gouvernement français. Où on renie finalement toute notre culture chrétienne. Toute notre histoire chrétienne, au nom de d'autres religions qu'on ne veut pas offenser, au nom d'une laïcité qui ne dit pas son nom. On s'aperçoit que finalement, on veut vider de sa coquille tout ce qui fait la force du christianisme. Et dans le christianisme, il y a le mot chrétien, et ce chrétien, c'est toi, c'est moi. Et où en sommes-nous par rapport à ça? Et c'est la raison de ma prédication ce matin. Qu'on puisse peut-être se poser la question, nous qui sommes ici et puis les amis qui sont sur Internet, de comprendre exactement qui nous sommes réellement vis-à-vis de Dieu, par rapport à Dieu. Les catholiques et le pape en tête a déclaré par rapport à cette racine chrétienne que l'Europe a des racines, c'est vrai, chrétiennes, mais il précise un point qui n'est pas anodin. Il n'est pas anodin parce qu'il dit ceci: il faut parler de racines au pluriel. Au pluriel. Et c'est là le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, mais il y a plusieurs chrétientés. Mais alors que c'est faux. Jésus n'a jamais déclaré qu'il y avait plusieurs chrétientés. Mais qu'il n'y avait qu'un seul christianisme. Et qu'on devait, on devait le revendiquer en tant que tel, parce que nous étions sous le couvert de la puissance de Jésus-Christ. Dieu nous a jamais parlé de pluralité chrétienne. Alors on a dilué, et le monde a dilué le message du christianisme dans une croyance sur mesure. On adapte le christianisme en fonction de l'évolution de la société. On va essayer de s'adapter, on va diluer un message, on va diluer notre croyance. Quelqu'un m'a dit un jour: monsieur le pasteur, moi je suis maintenant un croyant tolérant. Il était un croyant tolérant parce qu'il se retrouvait bousculé pour se fondre dans la masse. Il me dit, mais je veux me fondre dans la masse. Je n'ai pas envie qu'on me dise à bout de champ, à chaque fois, de dire, tu es un fanatique, tu es un extrémiste. Alors, il était tellement gêné au fait qu'il avait des positions qu'il a dilué sa pensée. Il s'est adapté, il s'est fondu dans la masse. Là où il aurait dû être, je dirais, une personne de lumière, un Christ, quelqu'un qui devait apporter la vie là où il y a la mort, quelqu'un qui devait apporter un message d'espoir, eh bien, il a porté finalement quelque part un message de mort parce qu'il était avec la mort. Il s'adaptait avec la mort. Il se fondait avec la mort. Et finalement, à force d'être tolérant, on laisse passer l'essentiel. Et finalement, la peur d'être catalogué de fanatique. Et quand on voit toutes les réformes qui ont été, je dirais, mises en avant dans cette société depuis quelque temps sur le mariage pour tous, qui est une abomination sans borne, sur la libération des droits sexuels de l'enfant, où aujourd'hui, ben, on peut dire à un garçon, tu sais, tu peux mettre une jupe et prendre une poupée, c'est pareil, que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose, c'est ce qu'on veut essayer d'inculquer dans notre société. Et face à tout ça, il y a des gens qui sont, je dirais, mal à l'aise, parce qu'on va leur dire, vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, chrétiens? Et comme on n'a pas envie de froisser une certaine population, comme on n'a pas envie de froisser peut-être notre voisin de palier, comme on n'a pas envie d'être en froid avec notre collègue de travail, il y a certains chrétiens qui tolèrent des choses, qui diluent le message. Pour se faire tout à tous, mais en fait l'apôtre Paul, quand il a dit il faut se faire tout à tous, c'est pas de faire des compromis. Se faire tout à tous, c'est savoir s'adapter aux besoins des hommes et y répondre, mais surtout pas fondre dans une masse qui apporte toutes sortes de choses impures. Alors, quelle est ta position, toi, chrétien, par rapport à cette société qui démantèle la famille, qui est là pour détruire le socle d'un père, d'une mère? Je suis toujours halluciné quand je vois des chrétiens qui fêtent Halloween. Me dit, mais monsieur le pasteur, c'est pas bien grave. C'est juste des bonbons qu'on demande et puis on ne va pas maudire la personne. Sauf que, admettons que vous alliez à une manifestation pour le mariage pour tous. Le fait de marcher dans la rue dans cette foule, ça ne vous fait pas de vous un pécheur. Vous êtes dans une foule, vous marchez et tout. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le fond qui est derrière. C'est pourquoi tu le fais, dans quelle mesure tu le fais. Le fait de pouvoir aller distribuer peut-être des bonbons au jour d'Halloween, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas en allant demander avec un petit enfant ce que tu vas faire dans ce jour-là, c'est le fond qu'il y a derrière. Parce que le fond d'Halloween, c'est quoi? C'est adorer les démons. C'est acclamer Satan. C'est se positionner dans une fête de mort, de destruction. Ah, vous savez que dans certains pays, actuellement, pour Halloween, eh ben, on sacrifie des enfants. Ouais. Alors, vous savez, quand on veut s'adapter au monde, on veut faire comme tout le monde, les gens ne pourront plus voir chez nous cette lumière dans ce monde de ténèbres. Et c'est là où nous avons vraiment besoin peut-être de reconsidérer notre position par rapport à tout ça. Un chrétien culturel, tolérant, c'est sûr qu'il va mieux passer dans cette société. Et c'est vrai qu'il va mieux passer dans ce marasme ambiant. Mais est-ce que tu vas vraiment être un témoin dans ce monde de ténèbres? Quelle va ta position par rapport à ça? Est-ce que ça te gêne aujourd'hui de revendiquer que tu es chrétien? Parce que c'est ça en fait. C'est cette position-là qui nous dérange. Zig Ziglar a dit ceci: une des plus grandes catastrophes de notre temps est notre acceptation universelle du mot tolérance comme une grande vertu. Dans Ésaïe 5:20, il dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » C'est-à-dire, on mélange tout, on s'adapte à tout. On veut essayer de vraiment faire des compromis. « Ah, mais ce pasteur, fais attention, comme ça, les gens pourront vraiment m'apprécier tel que je suis. » Oui, mais tel que tu es dans ta position, tu ne pourras pas gagner les âmes. Qu'est-ce qui va faire la différence d'un chrétien? C'est de ne pas penser comme le monde, mais penser comme Christ. C'est ça qui va faire la différence. Savoir que toi, tu es différent des autres. Savoir que c'est bizarre, il y a quelque chose sur toi, j'arrive pas à cerner ce qui se passe chez toi, mais tu es toujours joyeux, il y a toujours quelque chose de pétillant. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais c'est l'occasion, c'est un boulevard pour rendre témoignage là. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est montrer la différence dans ce monde d'indifférence. Savoir vraiment toucher, impacter les cœurs, mais dans ce contexte, le vrai chrétien est une espèce indésirable. C'est une espèce indésirable parce que ben, on le voit comme fanatique, on le voit comme fondamentaliste, on le voit comme extrémiste. Il y a tous les istes qui lui tombent dessus. Et c'est là le problème. Et c'est un dangereux individu qui a le malheur de revendiquer des vraies valeurs, qui a le malheur de revendiquer la pureté. Qui a vraiment le malheur de dire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vie éternelle. Revendiquer qu'on a un roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire Christ dans notre vie. Et ces choses-là, ça doit bousculer cette humanité. Le pasteur Patrick Morlet a dit ceci de très intéressant: le christianisme culturel est la quête du Dieu que nous désirons et non celle du Dieu qui est. Cette tendance fait que notre connaissance de Dieu est superficielle. On se représente Dieu comme un père compréhensif qui nous gâte tout en nous laissant poursuivre notre voie. Dans cette forme de christianisme, nous éprouvons un certain besoin de Dieu, mais à notre convenance. Bref, c'est un Dieu relatif et non le Dieu absolu. Et nous avons besoin d'un Dieu absolu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Le reste est du diable. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Celui qui est ferme dans ses sentiments, il va lui assurer la paix. Et si tu n'es pas en paix dans ta foi chrétienne, c'est parce que tu n'es pas ferme dans tes sentiments. C'est parce que tu n'as pas assumé ta position de chrétien. Et c'est le piège dans lequel on veut nous pousser aujourd'hui. On veut nous culpabiliser. On veut nous impressionner. On veut essayer de nous déstabiliser. Parce que si par malheur on revendique notre foi, notre vie chrétienne, on va être la risée de beaucoup de personnes. Mais est-ce que tu es prêt à lâcher certaines personnes pour ta foi? Est-ce que tu es prêt que certaines personnes te tournent le dos parce que tu t'es positionné pour Christ? Parce que c'est là en fait le problème. Et c'est là où on se retrouve toujours et parfois à porte-à-faux. Le chrétien culturel est tolérant alors que Dieu, lui, est amour. Ça, c'est, il faut faire la différence entre la tolérance et l'amour. Le monde est tolérant, mais Dieu n'est pas tolérant, il est amour. Et l'amour, il a prouvé à la croix du calvaire, en donnant son fils sur cette croix. Il aurait pu dire, allez, moi je suis tolérant, je laisse tomber, allez, Jésus ne va pas mourir à la croix. Mais par amour pour nous, il est mort à la croix. Il fallait payer, il fallait qu'à un moment donné, quelqu'un paye nos péchés. Mais c'est lui qui est monté à la croix pour nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ses enfants et que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ quelque part. Nous sommes à l'image de ce Dieu tout-puissant. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dans Actes 3, 19, il dit ceci de très important. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. » Le christianisme culturel est tolérant, on remet gravement en cause le sacrifice de Jésus. On remet en cause le sacrifice. On remet tout à zéro en s'adaptant avec le monde. En acceptant des choses qui ne sont pas acceptables, parce qu'on se retrouve peut-être gêné à porte-à-faux, parce qu'on a un regard sur nous qui est bizarre, et on aimerait tellement être aimé pour ce que nous sommes, mais Jésus, lui, il a été détesté pour ce qu'il était. Et c'est pour cela que nous avons un grand défi, frères et sœurs, face à ce christianisme que nous revendiquons, et que certains vont avoir un christianisme d'eau de rose, un christianisme culturel, et d'autres vont avoir un christianisme biblique qui va amener à se positionner. Revenons à cet épisode de Actes 11, 26, alors qu'ils ont été les toutes premières fois cités en tant que chrétiens. C'est la première fois que des disciples furent appelés chrétiens, 11, 26. Mais au verset 19, juste un petit peu avant, il est dit ceci, « Les chrétiens ont subi de violentes persécutions. » C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, les chrétiens ont été massacrés. Encore aujourd'hui, on a brûlé des centaines d'églises. On est dans une société qui déteste le christianisme. Au verset 28, Agabus, prophète chrétien, excusez-moi, annonçait une famine sur toute la terre. Et quand vous regardez au chapitre 12, toujours des actes des apôtres, Hérode maltraita des chrétiens et a fait mourir Jacques. Que dire de Pierre? L'histoire nous relate que Pierre a été crucifié la tête en bas. Et Pierre, et Paul, et tous ses disciples qui ont été à un moment donné persécutés au nom du christianisme. Voilà la signification du vrai mot chrétien. Et tous ces frères et sœurs-ci, on les rappelait aujourd'hui que finalement on a pu diluer ce christianisme pour s'adapter à la culture de ce monde. Est-ce qu'ils le comprendraient réellement? C'est-à-dire qu'ils sont morts aussi pour nous. Ils nous ont montré le chemin. Ils ont montré par où il fallait passer, comment se positionner. Et ça bouscule, c'est sûr que ça bouscule, c'est sûr que ça remue, mais ça nous interpelle quelque part aussi à chacun d'entre nous. Savoir comment je suis, moi, vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas le tout de pouvoir se proclamer de Christ. Un autre exemple de persécution. C'est un orateur romain, Tertullus, qui était juif. Il s'agère d'accuser l'apôtre Paul devant le tribunal et il dit ceci dans Actes chapitre 24, verset 5. Il dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, en parlant de Paul. C'était la peste. C'est une insulte. Vous imaginez si on disait de vous, ah, tu es une peste. Je ne veux pas te voir, ne me touche pas. Parce que tu es chrétien. Et lui, cet homme, cet orateur, il le dit devant un tribunal de centaines de personnes. Lui, c'est la peste. Ils sont dangereux, ces chrétiens. Ils sont fous parce qu'ils apportent des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et finalement, il était en train de bousculer son cœur. Il était en train de remuer son cœur par le message de Dieu. Il a dit qu'il excitait les divisions parce qu'un chrétien, ça dérange tout le temps. Sache, mon frère, ma sœur, un chrétien, ça dérange. Et si tu ne déranges pas en tant que chrétien, pose-toi la question. Si on est capable, dans un cercle d'amis, à parler d'histoire en dessous de la ceinture, devant toi, pose-toi les questions. C'est parce que peut-être que tu as laissé ces gens parler comme ça devant toi. Tu as permis qu'on discute de choses en dessous de la ceinture, en ta présence. Et c'est comme ça que finalement, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de blesser, parce qu'on n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie d'être exclu. Mais quelque part, il y aura forcément un choix à faire. Et il vaut mieux que ce soit nous qui dérangeons que le contraire. Et c'est pour cela que je parle de ce christianisme culturel. Et que nous avons peut-être juste essayé de se dire, oui Seigneur, comment je me positionne ? Comment je réagis ? Parce que c'est intéressant, vu qu'on nous met une telle pression dans cette société. On nous bouscule tellement que nous avons besoin peut-être de bousculer nous à notre tour. Que penser d'un christianisme à notre convenance quand les chrétiens en 2016 sont décapités, brûlés, massacrés au nom du christianisme, encore aujourd'hui ? Et ce n'est pas fini. Quand les médias, les gouvernements, complices par leur silence, leur inaction, on ne parle pas de tout ça. On ne va pas parler des chrétiens massacrés dans le monde. Les médias ne peuvent pas en parler parce qu'ils sont complices par leur mutisme. Les gouvernements sont complices par leur mutisme. Parce que le christianisme bouscule, dérange la société. Parce que le christianisme remue les consciences. Alors, ça remue tellement les consciences, ça remue même tellement les pouvoirs en place qu'on se dit, il faut se taire, il faut les écraser. On préfère une religion qui vient détruire, décapiter, qu'un christianisme qui apporte des valeurs parce que ça touche la conscience. Ça bouscule les cœurs. Mon frère, ma sœur, dans la société, tu dois déranger. Et on doit déranger, c'est ça le vrai christianisme. Ça va bousculer des vies, des hommes, des femmes, des gens. On va bousculer nos quartiers, on va bousculer notre milieu professionnel, on va bousculer nos familles. Ce n'est pas évident d'être chrétien, de se positionner en tant que tel. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que je trouve inquiétant, mes frères et sœurs, je vous parle avec mon cœur, c'est quand un chrétien biblique désire se marier avec une chrétienne culturelle ou l'inverse. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis ça. Quand on veut se marier, mais qu'il y a un rapprochement avec... Et bien souvent, on me dit, mais pasteur, vous savez, la chrétienne, elle est gentille. Je dis, bah, déjà, heureusement qu'elle est gentille. Parce que si en plus tu dois te marier avec quelqu'un de méchant, ça pose problème. Elle est croyante. Oui, mais je fais la différence entre croyance et chrétienté, on en a déjà parlé. Mais elle respecte ma foi. Ça veut dire parfois que si elle respecte sa foi, c'est qu'elle est dans une autre position. C'est-à-dire, on n'a pas le même langage. Vous comprenez qu'en tant que chrétien, on a un langage qui est particulier. Et c'est ça qui m'inquiète. Ou dire, mais je l'aime, c'est très bien de l'aimer. Mais le summum, c'est quand on dit, mais Dieu m'a parlé. Sauf que Dieu ne se contredit pas. Quand je vois dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Nos arguments ne remplaceront jamais l'autorité des Écritures. Jamais. On ne se marie pas sur des critères de tolérance, de gentillesse, même d'amour, parce que c'est relatif ça aussi, mais sur des critères bibliques, sur des valeurs bibliques, sur la volonté de Dieu, avant tout sur la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. On voit ce qui se passe après dans la relation d'aide. Essayer de concilier ce qui est inconciliable à la base. Essayer de rendre compatible ce qui est incompatible à la base. Essayer de rendre ce qui n'est pas de la volonté à la base, quelque chose qui est de la volonté de Dieu. Et après, il y a des fractures, il y a des blessures. Parce qu'à la base, il y avait, oui, peut-être un terme chrétien, une image chrétienne, mais laquelle ? Culturelle ou biblique ? Et ça froisse tellement de vie. Ça nous amène tellement après à regretter tant et tant notre vie. On aura gâché une partie de notre engagement avec Dieu parce que, faute de connaissance, le peuple périt. Nos arguments ne remplaceront jamais l'autorité des Écritures, frères et sœurs. On ne se marie pas sur des critères de tolérance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le terme chrétien ne veut pas dire « j'ai ma croyance, tu as la tienne ». Non. Ma croyance est la tienne est la mienne. On ne fait qu'une seule chair. On est dans une seule identité. Et je vais vous dire, sans être mariés, nous, l'Église de Christ, on ne fait qu'un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Un chrétien, c'est ça. Si on se revendique être chrétien, je suis identique à toi. Nous sommes pareils tous les deux. Je vais me reconnaître en toi et toi, tu vas te reconnaître en moi. C'est ça l'identité chrétienne que le Seigneur a revendiquée dès le départ et pour laquelle les disciples ont été persécutés, maltraités, décapités. Et encore aujourd'hui, Jacques, chapitre 1, verset 22, il dit « Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. » On a tellement été endormis. Vous savez, vous connaissez l'image de la grenouille dans l'eau. Vous la mettez dans l'eau froide, dans une casserole, et vous mettez le feu dessous, elle ne va pas bouger. Et puis elle va s'adapter à la température, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle cuise. Mais vous reprenez la même grenouille dans de l'eau bouillante, vous la jetez, vous allez voir comment elle va rebondir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, chrétiens, on pourrait tomber dans ce piège d'être anesthésiés par la société qui nous pollue de toutes sortes de valeurs charnelles, humaines, démoniaques. Et on s'adapte avec ça, et on s'enlise là-dedans, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est tellement pris qu'on n'ose même plus parler et revendiquer notre christianisme authentique. Et c'est là où moi je dis, il faut se réveiller. Il faut se bouger. Parce que peut-être, mon frère, ma sœur, tu t'es laissé piéger par ce christianisme culturel. Sans que tu t'en rendes compte, tu as été comme cette grenouille. Tu t'es laissé berner par la température qui est montée sans que tu t'en rendes compte. Et tu te retrouves finalement à parler même de choses pas très chrétiennes. Échanger avec des gens, raconter des histoires, rigoler même avec eux sur des choses qui n'étaient pas totalement chrétiennes. Et tu te sens pas bien, tu te dis mais c'est pas ma place ça. C'est pas mes valeurs, cette attitude, cette façon d'être. Déjà à l'époque, nous avions un message très fort de Jésus dans Matthieu 7, 21. Il dit ceci, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà l'amour de Dieu, loin de la tolérance des hommes. » Et j'aime bien ce message. Il dit, c'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Vous savez, quand est-ce qu'on a confessé le nom Seigneur de notre bouche? Vous vous rappelez? C'était le jour de votre conversion. Parce que c'est à partir de là, dès qu'on commence à se convertir, on prononce le nom de Seigneur. Avant, on disait Jésus, Dieu, enfin voilà, c'était assez vague. Mais le jour où on a accepté Jésus comme notre Seigneur personnel, on se l'a approprié et là, on a commencé à confesser le nom de Seigneur. C'est-à-dire que là, Jésus parle réellement à des chrétiens. C'est un langage chrétien. Et là, il parle à des chrétiens bibliques. Et on est loin là, on est loin du chrétien culturel à ce moment-là. Hein. Jésus, il parle à des chrétiens bibliques, il leur dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Alors imaginez le chrétien culturel, imaginez-le lui. Si le chrétien biblique, qui ne fait pas la volonté de Dieu, risque de perdre son salut, imaginez l'autre. Vous comprenez pourquoi il y a un monde, il y a un fossé entre le chrétien biblique et le chrétien culturel. Et à ce chrétien biblique, le Seigneur s'adresse à eux, parle avec eux, échange avec eux, dialogue avec eux. Et là, il y a quelque chose de très fort. Dieu est exigeant puisqu'il dit que la sainteté convient à la maison de l'Éternel. Et puis, il y a un verset qui tue. Ce verset qui tue, c'est Romains chapitre 12, verset 1er, où là, l'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte donc, c'est une exhortation, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire donner toute notre vie à Dieu, nos pensées, notre vie, notre existence, tout à Dieu. Et le Seigneur dit ça, c'est juste raisonnable, c'est le minimum que tu puisses faire. C'est ça un chrétien biblique. Ça nous remet à sa place, hein? Ouais. Vous comprenez mieux? Pourquoi je parlais de chrétien biblique et chrétien culturel? Et qu'on a besoin de rehausser peut-être nos valeurs. Parce que là, il parle à des chrétiens bibliques qui vivent leur vie au rabais. Leur vie chrétienne au rabais. Un autre exemple, dans Matthieu 7, 22, il dit ceci, et ça va encore beaucoup plus loin, là. Là, je vais pousser encore le bouchon encore un petit peu plus loin. Accrochez-vous, hein. C'est bon, restez pas debout, vous risquez de tomber sur votre chaise. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, voilà, on revient encore sur ce mot, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous connais plus. Particulièrement, je ne vous connais plus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous imaginez ce passage, quand vous y réfléchissez, vous dites quand même, ils ont prophétisé. C'est quand même pas rien. Hein, ils ont chassé les démons. Ils ont opéré des miracles. Pour faire ça, il faut avoir quand même un peu l'esprit de Dieu, non, vous croyez pas? Vous êtes d'accord avec moi? Malgré qu'ils aient eu l'esprit de Dieu, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Le Seigneur fait la différence entre l'onction et la sainteté. Le Seigneur peut nous utiliser un temps pour une onction, pour faire quelque chose de particulier, l'exemple de Saül, le roi déchu que Dieu a utilisé un temps, mais de toute façon, il allait être déchu de sa royauté. On peut avoir fait des miracles, c'est pas ça qui va nous impressionner. Ça ne doit pas nous impressionner, les gens qui font des miracles, parce que déjà, entre nous, c'est Dieu qui fait le miracle. Dieu permet, je serai ce canal de bénédiction, mais derrière, Dieu va voir un petit peu ce qu'il y a dans le fond. Ne regardons pas la forme, regardons au fond. Le problème, c'est que le fond, moi, je ne peux pas le voir. C'est Dieu seul qui connaît le fond du cœur. Et c'est ça qui va juger, en fait. Ce n'est pas ton miracle, ce n'est pas le prodige que tu vas faire en chassant les démons et tout ce que vous voulez. Ça, c'est parce que nous sommes juste des instruments de Dieu. Mais il va savoir si derrière ce mot chrétien, il y a le côté biblique ou culturel. Et c'est pour ça que ce texte, il est très fort. Elle dit, je ne vous ai jamais connu. Non seulement nous devons abandonner le christianisme culturel, mais rehausser le niveau de notre christianisme biblique. Le rehausser. Le remettre, faire une mise à jour dans notre vie chrétienne. Repenser comme Dieu repensait. Essayer de s'imaginer ce qu'étaient les disciples et ce qu'ils ont enduré pour être chrétiens. Et jusqu'au bout, il y a eu même un réveil dans un pays où on a enterré toute une famille. Avant de l'enterrer, on leur a dit, écoutez, si vous reniez votre foi, eh ben, vous allez vous en sortir vivant. Mais si vous ne la reniez pas, on va vous enterrer vivant. Et là, il y avait un couple de pasteurs avec deux enfants. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils ont refusé de renier leur vie, leur foi, leur identité chrétienne. Et ils ont été enterrés vivants. Suite à ça, il y a eu un réveil dans ce pays. Mais comprenez que derrière, il y a des gens qui en ont payé de leur vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens, ce que nous revendiquons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de rehausser cela, de nous repositionner. Je vais vous lire un témoignage d'un homme que vous connaissez très bien, en tout cas vous l'avez entendu parler. C'est le 27 mai 1738, personne n'était né ici, mais vous le connaissez quand même. C'est un missionnaire. Un missionnaire qui était découragé, mais il était missionnaire, hein, qui partit à contre-cœur à une réunion chrétienne à Londres. Et il dit ceci, là, un miracle se produisit. Il était environ 9h moins le quart, écrit-il dans son journal, lorsque, étrangement, mon cœur fut touché. Il était missionnaire. Hein. Je sentis que je m'étais réellement confié en Christ seul, pour mon salut. Et je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il est passé à cet instant, dans cette réunion, d'un chrétien culturel au chrétien biblique. Et ce missionnaire, vous savez comment il s'appelait ? John Wesley. John Wesley, qui a été le revivaliste. Suite à cette percussion dans son cœur, le message qu'il avait entendu, c'était Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Et la conséquence fut grande puisqu'il y a eu ce réveil, je dirais, en Angleterre et de partout. Il y a eu un puissant réveil dans la vie parce qu'il a changé sa façon d'être. Il est passé du chrétien culturel au chrétien biblique. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Seigneur, j'ai envie de faire une mise à jour dans ma vie chrétienne. Où j'en suis avec Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Seigneur, quelle est ma position vis-à-vis de ce monde? Quelle est ma position vis-à-vis de ma famille? Quelle est ma position au travail avec mes amis? Est-ce qu'ils savent déjà au moins que je suis chrétien? Mes voisins, mes proches? Comment je dialogue? Comment j'échange avec eux? De peur peut-être de les perdre. Seigneur, donne-moi une mise à jour. Permets que j'ai plus d'assurance, parce que peut-être qu'avant j'étais capable de crier haut et fort Jésus-Christ, aujourd'hui j'ose même plus y penser. Je le vis en catimini dans l'église. Personne ne sait que je viens à l'église Paris-Métropole. Est-ce que c'est vraiment ta position aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas bon que tu fasses cette mise à jour, que tu te positionnes à nouveau, afin que tu puisses crier Seigneur, Seigneur, et que tu rentres dans le royaume des cieux? Parce que c'est finalement ça que le Seigneur nous demande de faire. Et puis je terminerai en conclusion avec la maison sur le roc et sur le sable. Vous la connaissez cette image. La parole de Dieu nous parle de ces deux maisons, l'une sur le roc et l'autre sur le sable. Et en t'appuyant sur la parole de Dieu, tu construis ta maison, tu construis ta vie chrétienne, ta chrétienté sur du rocher. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Mais celui qui va avoir une vie de compromis, une vie de tolérance, une vie chrétienne de tolérance, d'arrangement. Tu vas monter ta maison, certes, c'est vrai, elle sera identique à la voisine, sauf que les fondations seront différentes. Tu l'auras montée sur du sable. Et c'est quand vont arriver les problèmes, les difficultés, que tout va changer. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ce message ce matin. Juste que nous puissions prendre conscience. Ce n'est pas un jugement, une accusation, c'est rien du tout, je ne juge personne, pas du tout. C'est juste qu'on puisse se remettre peut-être en phase avec notre Père Céleste, en phase avec les Écritures. La foule fut frappée dans le texte de la maison sur le roc et le sable. La foule fut frappée par sa doctrine, parce que c'est une doctrine. S'appuyer sur la parole de Dieu. Fut frappée par l'enseignement qu'il a pu donner avec une telle autorité, mais ça, ce n'est pas un langage... religieux, mais c'est quoi ton langage? C'est un peu Félix avec l'apôtre Paul, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, Paul? Tu as quelque chose de particulier, tu ne parles pas comme les religieux de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Pourquoi tu parles avec les tripes? Mais tu me parles d'un Jésus, tu as fait cette expérience avec Dieu, mais raconte-moi, j'ai envie de connaître, j'ai envie de vivre ce que tu es en train de vivre. C'est ça que nous voulons faire. Donner envie aux gens. Parce que je vous garantis, dans ce monde de tolérance, on est dans un monde de marasme, les gens ne savent même plus où ils en sont. Et si on peut juste être cette petite lumière qui nous montrera le chemin, parce que s'il y a deux aveugles qui marchent sur la route, vous savez ce qui se passe, hein? Que nous puissions éclairer notre lampe, frères et sœurs. Ça me parle des dix vierges, ça. Que nous puissions essayer de comprendre cette chose-là, construire sur du solide, investir sur du long terme. Sur l'éternité. C'est ça que nous aurons besoin de faire. Et vous savez, si on a cette telle influence, on va influencer les autres. Nos enfants vont nous remarquer dans cette chrétienté solide, biblique. Les enfants vont voir chez nous quelque chose que les autres n'ont pas. Ça va les marquer. Ils ne vont peut-être pas se convertir du jour au lendemain. Ils vont peut-être faire un petit peu leur chemin, leur parcours ici-bas, mais à un moment donné, ils vont se rappeler dans les moments difficiles ce qu'ont été leurs parents. Ces chrétiens bibliques, solides. C'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. C'est ce que nous voulons. Vous pouvez se lever à notre place, s'il vous plaît. Je vous inviterai à vous lever à votre place. Vous lire ce texte et puis après on va se recueillir. Quelqu'un qui a dit ceci, la Bible est une des choses les plus précieuses que Dieu nous ait données. Une des plus précieuses. Et tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont été martyrisés, ont été brûlés, ont été sacrifiés, alors qu'ils tentaient de préserver les Écritures, afin que nous ayons à présent, aujourd'hui, ici à Paris Métropole, un livre axé à la parole pour notre langue. Et si aujourd'hui nous avons une Bible, si aujourd'hui je peux vous prêcher la parole de Dieu ici, si aujourd'hui vous êtes ici à l'église Paris Métropole, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont été tués, martyrisés, bafoués, rejetés, insultés, qui en ont souffert, qui en ont payé de leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre. Et l'ultime, c'est Jésus à la croix du calvaire. C'est ça, le mot chrétien. Est-ce que tu en es un ce matin? Est-ce que tu te retrouves dans ce terme chrétien, dans le sens noble du terme? Ou est-ce que peut-être ta vie, à un moment donné, elle a un peu basculé, un peu glissé? Tu t'es laissé avoir. Tu t'es laissé, excusez-moi l'expression, berner. Tu t'es laissé glisser dans le courant de ce monde, dans la pensée de ce monde. Tu as rigolé de toutes sortes d'histoires. Tu t'es baigné dans la masse. Tu as fondu dans la masse. Tu as toléré certaines choses qui étaient intolérables pour toi à l'époque. Et peut-être même que tu t'es rapproché de certains chrétiens culturels. Tu t'es dit, voilà, ça va être mon témoignage, je vais la ramener au Seigneur. Alors qu'en fait, c'est elle qui était loin de lui. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts et que nous puissions peut-être élever nos voix et puis prier les uns pour les autres, là où tu es à ta place. Il y a peut-être des frères et sœurs ici dans ce lieu qui, justement, se retrouvent plus en tant que chrétiens, aimeraient vivre cette vie chrétienne, mais ont perdu ce qui en fait la force, ont perdu ce qui en fait la puissance. Ils ont cette étiquette, ils défendent bec et ongle, mais dès qu'on commence à s'opposer à leur foi, alors ils relâchent tout. Et tu as besoin peut-être de t'affirmer à nouveau ce matin. Tu as besoin peut-être de te repositionner, de remettre à jour ta vie chrétienne, de remettre à jour peut-être ton logiciel spirituel. Seigneur, aujourd'hui, il te tend la main, il n'est pas là pour te condamner, pour te juger. Mais il le dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas des belles paroles que Dieu veut entendre, c'est un cœur sincère et honnête. Et peut-être ce cœur sincère et honnête, il le voit ce matin. Il voit ce cœur qui dit, oui, c'est vrai, Seigneur, je ne suis plus dans le coup. Oui, c'est vrai, j'ai tellement fait de compromis avec toi. Oui, c'est vrai, Seigneur Jésus, je me suis tellement laissé griser par toutes ces pensées de ce monde. Oui, je me suis laissé embarquer dans toutes sortes d'histoires qui était loin de tes valeurs. Et Seigneur, j'ai envie vraiment de m'attacher à toi. Je viens à l'église parce que je t'aime. Je viens à l'église parce que je suis un passionné de Jésus, mais j'ai tellement failli dans ma foi chrétienne. Et le Seigneur connaît ton cœur ce matin. Le Seigneur, il est là pour juste te rappeler, te permettre de remettre à jour ta vie, ta foi, ton engagement avec lui, afin que tu puisses être à nouveau fier d'être chrétien, à nouveau fier de lever la tête, de prendre l'étendard de la croix, la bannière de Jésus-Christ, et de pouvoir confesser le nom de Jésus dans un monde de ténèbres, d'apporter la lumière dans ce monde de ténèbres, d'apporter la vie là où il y a la mort, d'apporter la joie là où il y a la tristesse, d'apporter la paix là où il y a la guerre, d'apporter peut-être même parfois le trouble, parce que Seigneur Jésus, ça trouble d'apporter un message de vie, d'espoir, de valeur. Ça bouscule les consciences et les cœurs. Et Seigneur, que vraiment ce matin, nous puissions nous tourner vers toi pour cela. Alors élevons nos voix ensemble et commençons à prier pour que nous puissions être cette église conquérante, ce chrétien, alléluia, que le Seigneur veut que nous soyons maintenant. Amen. Élevons la voix pour nous-mêmes, pour l'église de Christ, que nous puissions être cette église de lumière, alléluia, dans ce monde ténébreux, cette église de valeur, dans ce monde qui n'en a plus, cette église de grâce, dans ce monde de disgrâce, au nom de Jésus-Christ, puissions peut-être déranger les consciences, mais ce n'est pas grave, puissions bousculer les cœurs, comme le gouverneur Philippe, et on dit Amen, Alléluia, Seigneur, donne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, oh, simplement, Alléluia, une mise à jour spirituelle, à recadrer les valeurs qui sont les nôtres, Alléluia, afin d'être fiers d'être chrétien, engagé avec toi. Seigneur, nous sommes ce peuple acquis à la croix du calvaire. Tu as payé cher pour nous, tu as payé cher pour que nous soyons ici, dans ce lieu, Seigneur, ce matin. Les disciples ont payé cher pour que nous puissions revendiquer notre foi chrétienne dans ce lieu. Alors je te prie ce matin d'étendre tes mains, d'impacter le cœur de tes enfants, de toucher ceux qui en ont besoin, maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, agis dans ses cœurs. Élevons nos voix quelques instants. Élevons nos voix. Alléluia.